Dote!
Groovy!
Bonsoir, Françoise Tressart et la belle équipe en piste jusqu'à 21h. À l'affiche de votre dîner papou, dégagé. Et parlons-nous de la même œuvre, peut-être, mais à mots couverts, suivie des sorties de la rentrée pour une inscription à l'Académie des non-auteurs, Violaine Schwartz.
Ayant téléphone, vainement tenté de vous joindre, je me prends l'obligation de la plume pour exposer ma démarche non-artistique, ce qui problème me pose, étant entendu que comme vous, cher non-fondateur de cette non-société qui ne répond jamais au non-téléphone, je me suis toujours tenu à l'écart du papier.
Ensuite, le pamphlet d'Éval Massy contre tout ce qu'on exige des femmes. Ah, cette perfection attendue de nous. Et les journaux intimes et croisés de Lucas Fournier et Jean-Bernard Puy dans le train. Jean-Bernard, retour de vacances.
Et c'est le moment où le train pointe au bout du quai, que l'on se souvient tout à coup qu'on a oublié de sortir la poubelle, qui, si on ne trouve pas une solution, va rester un an sous l'évier. Avec les croûtes de fromage, l'huile de sardine et les 3 nectarines pourries, notre maison chérie va se transformer en bac à compost.
Les papous du samedi soir, à podcaster sur franceculture.fr pour une écoute sans contrainte, à l'heure et au jour de votre choix. Si vous nous avez suivis du dimanche heure du déjeuner au samedi soir heure du dîner, soyez remerciés de votre fidélité qui nous va droit au cœur. C'est déjà notre 6e samedi soir. Merci de votre amitié, de vos messages réconfortants, mais légèrement inquiets. Et pour tous les nouveaux qui découvrent les papous dans la tête le samedi soir, soyez les très bienvenus et rejoignez la bande des auditeurs sur notre page Facebook. Alors, pour ouvrir ce numéro, j'ai demandé à Lucas Fournier de s'intéresser à un mot très en cours depuis bientôt un an et de le traiter, ce mot, à sa façon subjective et sous la forme d'un poème. Donc, place à Lucas qui s'attaque à quel mot ?
Dégager.
Allez, dégager. Est-ce que vous traitez aussi le dégagisme ?
Ah non, c'est un verbe du premier groupe.
D'accord.
Ça s'appelle dégager.
Alors, qui va contrôler ? Jacques Bertrand, vous voulez bien contrôler Lucas Fournier sur le verbe dégager, qui est un mot à la mode. C'est vrai, on n'a jamais autant cité ce mot. Qui a commencé à le dire ? Et à parler de dégagisme.
Mélenchon.
Parce que c'est Mélenchon.
Ces derniers temps, oui.
Oui. Alors, dégager, Jacques Bertrand. Vous le traitez de quelle façon, bon, ce verbe dégager ?
Ce sont des petites strophes, avec chacun des sens. Donc c'est en vers et ça rime en principe.
Oui. Des vers de combien de pieds ?
9.
Ben, c'est assez rare, des vers de 9 pieds. Vous arrivez à dégager ?
Dégager, c'est le verbe.
Oui, c'est le verbe.
Oui, c'est le verbe.
Ouais. Donc j'y suis.
Très bien, alors, on vous écoute, Lucas.
Dégagez, dégagez, dégagez-moi le front et que ce soit léger, fluide, élégant, aérien. Je veux sentir respirer mes cheveux pour une course de cheveux légers. Dégagez, s'il vous plaît, dégagez, monsieur, dame, il n'y a rien à voir. Non, je sais, ça va vous décevoir. Ce n'est qu'un tout petit bout d'iceberg, hein. Surtout, pas de panique. On va dégager l'avant du Titanic, oui. Dégagez, dégagez. Est-ce que j'ai une tête de dégagé ? Oui, je suis dégagé des obligations militaires, évidemment. Et des contingences, oui, vachement. Et des modes et des codes, oh, absolument. Si je suis libre dans ma tête, ah mais complètement. Ah, je suis un mec qui dégage, hein. Ouais. Dégagez, dégagez-les, on va les dégager. Ils nous font enrager, on va tous les virer, on va tous les changer. Le dégagisme est un humanisme. Mais pour ça, faut s'engager. Mais dégage, mais dégage, mais dégage, grande couillonne, tape-y dans le ballon, si tu attends, on va se prendre un but. Allez, shoot dedans, pas de fioritures, ni de littérature, le Bayern ne sait pas des poètes. Et bing, il a mis une tête, déjà 3 buts dans la musette. Dégager, dégager en 3 pages maximum les idées de l'auteur des 7 tomes de La recherche du temps perdu. Ce n'est pas si ardu, qui a dit le prof Marcel. Et qui dégage cette fumée ? Ah, votre cervelle. Dégagez, dégagez, je veux bien, mais c'est votre bras qui est sous le mien. Mais là, mais il faudrait déjà qu'on nous sorte de là. Ça fait 2 heures qu'on est dans l'ascenseur, coincé dans cette cage au 26e étage. La copropriété n'a pas voulu dégager des crédits. Comment ça, on est foutu ? Louis Mal ? Non, je connais Mal. Allez, on laisse tomber.
Oh, c'est très bien. J'ai l'impression que tous les sens y sont, non, Jacquard?
Oh, oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de presque synonymes pour dégager. Donc, il a pratiquement traité tous les sens. Oui. Se dégager le nez, peut-être?
Ah oui, moi, je suis...
C'est dans le rabais.
Ah, c'est dans le... On dit, pour se moucher, on dit, je me suis dégagé le nez.
Bien c'est sûr, pas la même chose.
Ah oui.
C'est pour la cocaïne.
C'est pas la même méthode, oui.
Exonérer, soustraire... dans le sens pronominal, se dégager d'obligation.
Oui, vous avez raison, oui.
Il y a une petite citation amusante, ou pas?
Cette légère rumeur qui se dégage toujours du silence de la foule.
C'est beau, Victor Hugo. C'est de qui?
Victor Hugo.
Ah oui, toujours.
Quand c'est bien, c'est Hugo.
Une sorte de poésie se dégager de tout son être. Gide. Voilà, c'est tout.
C'est bien.
Vous avez dégagé l'essentiel.
Vous pouvez dégager, Lucas, merci. C'est parfait. On garde votre définition. Et reprise, nous ne dégageons pas. Reprise, vendredi 13 octobre, à 20h, de nos soirées en public des Papous dans la tête, au studio 105 de la Maison de la Radio. Alors peut-être, c'est pas sûr, peut-être encore quelques places. Faites vite pour vous inscrire sur maisondelaradio.fr. Réservation indispensable. Entrée par le hall face à la scène le jour J, le 13 octobre, donc de 20h à 22h30. Les Papous sont 13 sports, avec Lucas Fournier, Eva Almassi, Jacques Apertrand, Patrice Caumont, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg, Jacques Jouet, Patrick Beignet, Jean-Bernard Puy, Gabriel Godard et moi, 11 Papous pour le 13 au 105. Parfois, on parle d'une chose, mais voilà, ceux qui écoutent et qui ont raté le début de la conversation peuvent se tromper sur le sujet. C'est le lot quotidien des malentendus. On peut aussi le provoquer, ce malentendu, par jeu, en parlant mais à mots couverts. Imaginez la situation. On dit le conseil a pensé très fort à une certaine œuvre et elle a écrit sur cette œuvre, mais sans en révéler le titre. Ricardo Mosner a lu son texte, s'est fait une idée, a écrit à son tour, et ainsi de suite pour Patrice Delbourg. Et c'est avec Eva Almassi que nous remonterons la chaîne des malentendus, ou pas. Odile Conseil nous raconte une œuvre mise à mots couverts dans le mystère.
Évidemment, et sous la forme d'un conte de fées, en quelque sorte.
Oh, chouette.
Il était une fois, un été qui s'annonçait beau et chaud, et justement les vacances commençaient. Tous étaient joyeux, la bonne humeur et l'huile solaire coulaient à flot. Mais un jour, ou plutôt une nuit, une jeune femme disparut dans les profondeurs des ténèbres. « C'est la bête qui l'a dévorée !» crièrent les villageois. On mobilisa, on recruta des volontaires pour une grande battue. Le tableau de chasse fut impressionnant et chacun retourna chez lui, certain d'être débarrassé de la bête. Mais elle frappa à nouveau. Très vite, il y eut deux camps. Ceux qui exigeaient que plus personne ne sorte au nom de la sécurité et ceux qui ne voulaient pas d'une ville morte. N'écoutant ni les uns ni les autres, mais seulement leur courage, une poignée de têtes brûlées jurèrent de traquer le monstre jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce ne fut pas une partie de plaisir. Tant la bête était énorme et rusée, jouant à cache-cache dans la plaine avec ses poursuivants. Quelques-uns y laissèrent leur peau, mais le héros eut celle de la bête et les vacances purent reprendre leur cours paisible, au moins pour un certain temps.
Oh ben là, on est content. Bon, ça s'annonce joliment, il y a un méchant, enfin la bête, puis les autres, hein, on pense à quelque chose sans dire à quoi vous pensez, Sophie, Lucas, ça vous mènerait vers quelque chose?
En tout cas, ça mènerait plutôt vers le cinéma, quelque chose qui fait assez peur. Je vois plutôt quelqu'un de terrorisé à entendre ça au cinéma. Voilà.
D'accord. Ricardo Mosner,
oui.
Vous avez eu en main, alors évidemment ça change beaucoup avec la lecture, parce que dans la lecture, Odile met toute sa joie de vivre, son sourire immense dans la voix, etc. Mais vous aviez juste son texte, oui. Tapé bon, sur l'ordinateur. Quelque chose vous est apparu de la pensée d'Odile?
Oui.
C'est vrai? Ah, mais parce que vous êtes très malin.
J'ai pensé...
À quelque chose.
Quelque chose, oui.
Et vous avez eu envie d'en parler.
Oui, je raconte.
Et alors, elle avait commencé en conte de fées. Vous poursuivez de quelle façon?
C'est une brochure publicitaire.
D'accord, très bien.
L'aventure, pour la mettre en boîte, pour l'éternité, pour la léguer aux générations suivantes. La géographie, la science, ça vaut le détour. Allez, en route pour l'action et la romance. Exotisme, voyage, découvrez les passions cachées, partez à la chasse. Des vrais combats pour ceux qui aiment la bagarre. Chasse au trésor, chasse à la mort. Adrénaline, gagner la bataille, jungle, exotisme, oser traquer les fantastiques. Oui, il existe. Il les trouve en chair et en os, en taille, surhumaine, surnaturelle, surélevée, stratégie, armement, la violence et la fureur. Mais l'amour se cache, montant aux nuages, la peau douce et la pelure sauvage. Un nid d'émotion au milieu des balles. Et la chute est impitoyable. La tendresse manquera la brutalité. Une aventure à ne pas manquer.
Ouais. Je ne sais pas si vous avez l'air de parler de la même chose, Odile. Quelle est votre opinion?
Je n'ai pas l'impression qu'on parle exactement de la même chose, non?
Non. Non.
Oh, ça ne me fie pas.
Eva pense que oui.
Je crois que si, c'est tout à fait cohérent avec ce que j'ai noté, moi, à la lecture seule de Patrice Delbo.
Ah oui, mais on n'a pas encore entendu Patrice. Bon, est-ce qu'entre vous deux, Ricardo et Patrice, le courant est passé?
Il y a de l'aventure, il y a de l'exotisme.
Oui.
Il y a une bête, toujours, qui est là. Et puis, il y a quelque chose qui a retenu mon attention, c'est la confrontation entre la peau douce et le pelage sauvage.
Ah oui.
Voilà, là, tout est dit.
Tout est dit, oui.
Enfin, tout est dit de ce que vient de dire Ricardo, parce que vous n'aviez pas connaissance du texte de Dill avant de l'écouter avec nous.
C'est vrai que là, on est plutôt vergé vos dents. Mais enfin,
Oui.
Donc, j'ai pris un style, le style synopsis pariscope.
Ah oui, très bien, très bonne idée. Oui. Ça simplifie en général.
Voilà, ça simplifie les choses.
Les choses sont claires pour vous.
Merci. J'ai pensé quand même à Eva, qui revient de vacances.
C'est bon camarade de faire ça.
Et j'ai pris donc quelque chose de très plat, d'informatif,
d'accord,
de factuel, comme on dit aujourd'hui.
C'est bien, il en faut parfois.
Une jeune comédienne de vaudeville se retrouve au chômage dans les rues de New York.
Ah oui.
Un jeune réalisateur rêve de tourner un film d'aventure dans une île de l'océan Indien. Quand il y parvient, après quelques essais infructueux, le film risque de capoter car l'actrice principale a renoncé. Le jeune réalisateur pense alors à cette jeune comédienne au chômage. Il lui ment bien sûr sur les intentions de son tournage. Il lui dit qu'il s'agit d'une idylle romantique et aventurière sur un bateau. Elle ignore encore qu'elle va être confrontée à un être monstrueux, hurlant de rage, acharné à tout saccager sur son passage. Elle ne se doute pas qu'elle terminera dans la main du colosse, dans le quartier même où, naguère, elle traînait son désespoir.
Bon, mais ce serait difficile.
On lui dit merci à Patrice et cadeau. Je ne sais pas s'il parle de la même œuvre que Ricardo ni que Odile Conseil, mais en tout cas, je pense qu'entre vous deux, ça a dû passer, non?
J'ai revu de mes yeux King Kong dans toutes ses versions anciennes et plus modernes. Donc j'ai revu un nombre d'actrices gigotant dans ses manches velues. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a longtemps que j'ai pas vu King Kong.
On se fera une petite projection.
Et alors, bravo. Enfin, bravo. Je ne sais pas. Est-ce que Patrice Delbo a voulu parler de King Kong?
C'est King Kong. Les versions cinématographiques. Pas le livre.
Ah oui, vous avez revu le film, quoi.
J'avais... ce qui a fait tilt, c'est la peau douce et la...
De Ricardo.
Oui, le pelage sauvage.
Mais c'était aussi la taille, quand même.
Oui. Et la taille et aussi, bien sûr.
Ah, vous voulez que je vous dise quelque chose, Patrice Delbourg et Val Massy, aussi bizarre que ça puisse paraître, vous êtes vraiment fait pour vivre ensemble. Vous entendez bien.
Il y en a un qui a la peau douce et...
Comme la belle et la bête.
Il y en a un qui est plus rugueux, mais on peut s'habituer. Hein.
C'est donc, les premiers poils qui comptent.
King Kong pour Eva, King Kong pour Patrice Delbo. Est-ce que Ricardo, vous avez voulu...
Vous pouvez vous marier.
Tout à fait.
Vous pouvez faire un ménage à trois, absolument délicieux. Alors, je me tourne vers Odile, qui est quand même à l'origine de ce délire King Kongesque, si je puis dire. Est-ce que vous avez voulu parler de King Kong?
Ah non, pas du tout.
Ça aurait été trop beau.
Ma bête monstrueuse à moi n'est pas une bête de la terre. Et quand il était question de la plaine, quand elle joue à cache-cache dans la plaine avec ses poursuivants, c'est la plaine abyssale.
Ça, voilà.
Donc la bête, c'est
C'est une bête maritime.
C'est un requin.
Oui. C'est un requin.
Les dents de la mer.
J'ai pensé à ça.
C'est la version nautique de King Kong, quand même. En quelque sorte, pas si loin.
Vous pouvez nous justifier par un ou deux petits.
Au début, il était une fois un été qui s'annonçait beau et chaud. C'est le début du film où c'est les vacances, où cette petite ville qui s'appelle Amityville, tous les touristes arrivent et tout ça. Donc après, la première qui disparaît, c'est cette première séquence, on voit une jeune femme qui va se baigner dans la nuit. Et puis, on voit juste qu'elle est saisie par en dessous et on voit son buste qui est baladé au-dessus de la mer. Sur ceux qui veulent que personne ne sorte de chez soi, c'est le shérif qui veut la sécurité d'abord, contre le maire qui est le gros promoteur et qui ne veut pas que les touristes désertent la ville. Voilà, et à la fin, ils s'en vont avec... Il y a ce vieux chasseur de requins avec qui part sur le bateau, qui meurt. C'est ce moment où il y a cette réplique célèbre de... Comment il s'appelle, Rod ? We're gonna need a bigger boat. Quand il voit à quel point la bête est grosse.
On a besoin d'un plus gros bateau.
Et donc, et les vacances puissent reprendre leur cours paisible, au moins pour un certain temps, puisqu'il y aura dans la mer 2, 3, 4.
Ah, d'accord. Bon, je dirais pas qu'on est très près, parce qu'il y a un univers...
Mais comme moi, j'avais pas vu le film, je pourrais pas raconter.
Mais là vous voyez, il y a un retournement, parce que la peau douce, c'est la peau de requin.
Ah, oui, c'est à l'envers.
Très forte.
Je suis pas sûre qu'elle soit si douce, la peau de requin.
Le
galuche. Ah, si, on peut en faire de très jolies
des
choses.
Des sacs à main.
Oui, j'avais un costume de...
C'est Truffaut, surtout requin. La peau douce.
La peau douce, c'est... Françoise d'Orléac, c'est ça, hein. Lucas, vous étiez premier spectateur-auditeur avec Sophie. Vous aviez eu cette impression d'univers marin avec Odile et ensuite de King Kong, Sophie, non ?
L'univers marin de très champêtre au début, hein, mais oui, c'était ça, absolument.
On dit ça après.
Moi, je n'ai rien compris. Là.
En tout cas, c'était un joli parcours. Et puis, avec des mots qu'on comprenait, il y avait un accès prime time pour les patrons du samedi soir à 20h, qui était très possible.
Il y a eu un moment non crypté.
Exactement.
Casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte bleu marine, la bouche sèche. Le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle tous les jours et nuits avec La Rochelle. Il voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées. Les belles sournoises, les grands voiliers, la vie le promène en Seine-et-Oise, dans sa simca rouillée. On vit la vie dans une brume. J'aurais dû y avec La Rochelle. On voulait Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca. Molène en mer d'Iroise, les ancres rouillées, les baleines, la mer turquoise, les coffres oubliés, les sirènes, les bêtes sournoises, les grands voiliers. Mais la vie nous promène en Seine-et-Oise, dans sa simca rouillée.
Le marin d'Alain Souchon.
Samedi soir, est-ce que j'ai une tête de samedi soir ?
Eh bien oui, sur France Culture, les papous dans la tête.
Eh oui, les papous dans la tête sur France Culture, et vous avez bien une gueule de samedi soir, puisque vous faites partie de la bande, Gérard Mandilla. Alors, je reviens sur le choix pas si innocent de Dil Conseil pour Parlons-nous de la même œuvre. Cette femme aime la mer, les marins et les ports. Celui du Havre en particulier, où se tiendra la 3e édition de son festival du film Ciné Salé. Président d'honneur Gérard Mandilla, président du jury Jérôme Clément. 6 films en compétition et en avant-première projection du film de Robert Guédiguian, parrain de cette nouvelle édition où vous rencontrerez François Morel, Philippe Torreton, Claude Lelouch, entre autres, et même des requins, puisque vous pourrez assister à la nuit des requins. Frissons garantis. Ciné Salé au Havre, le festival du film, du 18 au 22 octobre. Le programme sur www.ciné-salé.com. Rentrée d'octobre et toujours des sorties, des livres, des rencontres, des films. Tous ces événements qui donnent des couleurs à l'automne et rendent le quotidien plus intéressant. Jacques Abertrand a fait la chasse aux nouveautés pour nous. Alors, qu'est-ce qui va nous faire sortir de chez nous, selon vous? Quel rendez-vous?
Il s'agit des vendredis de l'Académie nationale des non-auteurs.
Ah oui. Ah oui, bon. J'en ai entendu parler, mais je ne suis pas allée encore.
Alors, j'ai fait un reportage sur eux, qui a été publié par le Figaro e-littéraire. Oui. On désespérait. Le moindre hameau de l'Hexagone avait son salon du livre et ses auteurs locaux. Ses discours complaisants, maire, conseiller général, adjoint à la culture. Les écrivains nationaux, en mal de week-end à la campagne, venaient y jouer les bêtes à concours. Déjà, au contraire, les foires aux bestiaux devenaient rares. On commençait à craindre pour les vides-greniers. Séguéla l'avait dit, qui à 50 ans n'avait pas publié un livre avait raté sa vie. On ne comptait plus guère d'artisans, de compagnons charpentiers du devoir, encore moins de tailleurs de pierre. L'atelier d'écriture était devenu le grand chantier national. À peine son dossier de retraite ou sa demande d'année sabbatique déposée, tout un chacun se mettait au clavier et entreprenait de rédiger « Ma vie, mon œuvre », une famille exemplaire ou la saga des Dupont de Colombier-le-Vieux. Toute vie était en roman, assurait-on. Les maisons d'édition croulaient sous les piles de manuscrits de 1000 pages et plus. Les libraires s'arrachaient leurs derniers cheveux. Il y eut de nombreux cas de burn-out suivis de suicides chez les critiques littéraires. Mais bientôt vint le grand sursaut. Dieu merci, dans les époques les plus terribles, l'esprit de résistance, si cher à nos compatriotes, ne manque pas de se réveiller. Ainsi naquit l'Académie nationale des non-auteurs, dont la maxime adaptée de La Bruyère est la suivante. Le mérite de quelques-uns serait d'écrire, mais celui du plus grand nombre est de n'écrire point. Oscar Tabellion, qui dès l'école primaire s'était refusé à toute rédaction et pouvait se vanter de n'avoir jamais envoyé le moindre texto, en fut le génial promoteur. Les statuts de cette académie relèvent évidemment de la tradition orale. Les séances consacrées à la non-écriture ont lieu le vendredi. J'ai eu le privilège d'assister à plusieurs vendredis de cette assemblée salutaire. Au cours de chaque séance, après le sacrifice rituel d'un dictionnaire de rimes, un certain nombre de non-auteurs, appelés en suivant le sens contraire de l'ordre alphabétique, racontent comment et pourquoi ils ont renoncé à écrire. Le costume des académiciens se compose d'une veste de charpentier, d'un pantalon de golf et d'un canotier, le bonnet d'âne et la casquette de marin-pêcheur ayant été rejetés à la quasi-unanimité. Il est naturellement interdit de prendre des notes, et je dois me fier ici à ma seule mémoire. Je me souviens d'un certain Zino Zinoviev qui, ayant renoncé à entreprendre le grand roman historique qu'il envisageait d'intituler « Paix et guerre », fut longuement applaudi. « Ce n'est pas la littérature qui compte, c'est tout le reste », déclarait un médecin qui s'était interdit de rédiger « Ça va pas la tête », mémoire d'un jeune psychiatre. Un certain Albert, ou Marcel peut-être, Proutot, réclama l'honneur de brûler en public les 3000 pages qu'il n'avait pu s'empêcher de noircir de son roman autobiographique « Le temps perdu ne se rattrape guère ». Un imprimeur repenti, reconverti dans l'import-export, va réclamer l'absolution. Un ancien président du jury Goncourt jura, mais un peu tard, qu'il ne primerait plus. Lors de la dernière séance, l'avocat de M. Xavier Verger, condamné à la perpétuité incompressible, vint dénoncer ce qu'il tenait pour le plus grand danger d'une longue incarcération, la tentation de l'écriture. Il fit par ailleurs l'éloge de son client qui refuse de collaborer au scénario d'un feuilleton inspiré de sa vie. Monsieur Verger, qui selon son avocat ne manque pas d'humour, aurait déclaré « En tant que meurtrier en série, je ne peux décemment pas me permettre d'en écrire une. » Il est possible d'assister au vendredi de cette assemblée pittoresque en réservant uniquement par téléphone. Pendant les pauses, on peut aller prendre un verre au bar. Attention, les prix ne sont pas affichés. Et même jouer aux fléchettes avec des porte-plumes à l'ancienne. Enfin, l'Académie des non-auteurs rend régulièrement hommage à l'art conceptuel contemporain. Ce mois-ci figure dans le hall d'entrée une installation de Marcel Dupré, un gigantesque échafaudage multicolore de corbeilles à papier.
Et c'est ouvert à tout le monde. Enfin, ah oui, on peut y aller.
C'est bien, hein, c'est salutaire.
On peut réserver par téléphone.
Ah, quand même, il y a combien de fauteuils enfin...
De fauteuils, les 50 sont pris, mais on peut visiter debout.
Oui. Alors, c'est quand même très intéressant, cette histoire des vendredis de l'Académie des non-auteurs. Voilà. Hein, moi, je trouve que Oscar Tabellion a une formidable idée. J'ai très envie d'y aller. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites vendredi prochain tous? On y va ensemble, non?
Encore faut-il pouvoir y aller et réserver, parce que c'est très compliqué.
Ah,
c'est
ça, alors vous avez essayé, Violaine.
Oui, parce qu'en tant que non-auteur, j'ai essayé de... Enfin, voilà. Donc, du coup, je suis obligée, en tant que non-auteur, d'écrire une lettre, alors que je déteste écrire, puisque...
Vous n'êtes pas auteur.
Je ne suis pas auteur, je suis... Voilà.
Donc, vous écrivez à Tabellion.
Parce que ça ne répond jamais au téléphone.
Ah,
bon. Voilà, donc on veut venir, mais on ne peut pas.
Ah oui.
Donc, du coup, j'ai écrit. Alors, à l'Oscar Attention de Tabellion, le fondateur de l'Académie nationale des vendredis des non-auteurs, dont je fais assurément partie, comme vous le verrez par la présente. Ayant téléphone vainement tenté de vous joindre, je me prends l'obligation de la plume pour exposer ma démarche non-artistique, ce qui, problème me pose, étant entendu que comme vous, cher non-fondateur de cette non-société qui ne répond jamais au non-téléphone, je me suis toujours tenu à l'écart du papier, que je plie plutôt façon origami et que j'effeuille. Aussi ai-je entrepris de plier l'ensemble de ma non-bibliothèque en une sculpture géante où les mots d'Eschyle donnent des ailes à Prévert et où les diatribes de Céline forment une armée de canetons qui chantent admirablement cette grande chanson de la culture française. C'est la danse des canards qui s'entend dans la mare. Se remue le popotin et font... Bon, pardonnez-moi, je m'égare. Je reviens à ma requête concernant ma création artistique qui ornerait admirablement votre fronton d'académie aussi, en espérant que vous comprendrez la missive de mon sens. Je vous prie de saluer mes agrégations distinguées et je vous remercie de votre non-attention.
Mais c'est une belle lettre, moi je trouve qu'elle a une plume. Hein.
Oui, c'est une lettre formidable de non-épistolière.
Oui, exactement. Donc vous lui avez répondu quand même pour que...
Enfin
bon, évidemment,
encore.
Vous êtes journaliste alors.
Pas encore.
Mais j'espère qu'on va lui répondre et qu'elle sera convoquée.
Je suis journaliste, mais je suis dans la presse lente.
Bon, Patrick Beignet, vous aussi, vous avez essayé sans succès?
Non, je suis contre cette entreprise.
Ah bon?
Ouais.
Oui.
Donc je n'ai pas vu le truc. Mais j'essaie parfois de faire croire que j'ai vu, et de toute façon, ça ne m'empêche pas d'avoir un jugement extrêmement
évidemment,
négatif
comme tout le monde, ouais.
Sur cette entreprise. J'ai publié un article dans plusieurs journaux, qui est plus de l'ordre du pamphlet ou du manifeste. Ouais. Le titre, c'est « Marche arrière, Oscar Tabellion et l'escroquerie de l'ANNA ». L'ANNA, c'est l'Académie nationale des non-auteurs. J'abrège en ANNA.
Oui, c'est bien.
C'est mieux.
Oui, oui, ah, oui, oui, il y a un progrès.
ANNA,
oui.
ANNA avec deux N.
Voilà, bien sûr.
Oui, évidemment.
Je fais sentir.
Oui.
Pas de susceptibilité d'auteur vieillissant.
Ça passait à l'oreille. Hein.
Depuis une dizaine d'années, des amis de la littérature voyaient avec désespoir se développer un mouvement illittéraire qui était guère qu'une pénible parodie, ou plutôt une inversion de tout ce qui fonde l'idée même de littérature. Une fois de plus, on voyait les subventions et les financements les plus divers œuvrer contre la grande tradition occidentale. À l'origine de cette sinistre entreprise se trouve, on le sait, un certain Oscar Tabellion, fondateur de l'ANNA et promoteur universel de l'illittérature. Tabellion a ses élateurs et son culte. En cette année qui marque le 150e anniversaire de sa naissance, l'ANNA avait prévu une série de festivités qui devait culminer le 20 octobre avec l'inauguration d'un non-monument en son honneur sur la place du marché de sa ville natale, Saint-Prosper. Une importante découverte hautement salutaire vient remettre en question cette célébration. Toute la gloire de Tabellion, toute sa doctrine consistait, on le sait, dans le refus systématique dès l'enfance de toutes les pratiques d'écriture, littéraire d'abord, mais aussi sous les formes les plus variées. Or, à Saint-Prosper, Anselme Carnevon, le biographe officiel d'Oscar Tabellion, vient de découvrir plusieurs caisses de manuscrits dus à la plume du grand homme. D'abord tenté de détruire ces milliers de pages qui mettent à mal la stature de son héros, M. Carnevon les a finalement remises à la Bibliothèque nationale avec une probité qui lui vaut toutes nos félicitations. On découvre ainsi que dès sa sixième année, jusqu'à sa mort, à l'âge de 98 ans, je n'ai pas les mêmes sources que la dame qui parlait avant. Oui. Oscar Tabellion n'a cessé d'écrire des poèmes d'une insondable niaiserie, des tragédies en vers calquées sur le théâtre de Voltaire, des romans autobiographiques et sentimentaux. Ainsi, le prophète de l'illittérature n'était qu'un écrivain comme les autres. Souhaitons que la totalité des membres de l'ANNA soit au plus vite passée par les armes.
Oh oui, oh oui.
Ah, on est dans la nuance, là. Oui. C'est
radical, oui. Ça me fait penser à ce que répète sans arrêt Michel Simon dans Drôle de drame. À force d'écrire des choses horribles,
elles finissent par arriver. Très bien. Bon, écoutez, moi, j'ai quand même envie d'aller faire un tour. Hein. On y va, Odile ?
À l'inauguration de la non-statue ? D'accord.
Non, vendredi de l'Académie des non-auteurs, qu'on vous recommande quand même.
La non-statue, c'est intéressant.
Ouais.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais ? Pour t'en être dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sur ses doigts naître les couleurs du jour. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va.
Iggy Pop, et si tu n'existais pas, une chanson de Joe Dassin. Vous écoutez France Culture. Des papous dans la tête, au micro, Françoise Trossard et la bande des papous du samedi soir. À suivre, jusqu'à 21h, à vos pamphlets et les journaux intimes de deux papous en crise existentielle, Lucas Fournier et Jean-Bernard Puy. Bon, revenons sur les papous. Ils sont plutôt en général des gens sympathiques, gentils, mais parfois capables de se révolter contre des petites choses, par exemple les poussettes sur un trottoir alors qu'ils voudraient y rouler en vélo, les baguettes tradition, quand on se lance dans un pamphlet, un brin de mauvaise foi ne nuit pas. Et puis, certains, tout en ayant l'air de sourire, appuient là où ça peut faire mal. Et c'est le cas d'Eva, qui, partant d'une toute petite chose, voudrait revenir sur la condition féminine. Rien que ça. Vous vous insurgez contre quoi, Eva, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je m'insurge contre le maquillage qui coule lorsque vous pleurez et qui vous fait le visage comme celui de Romy Schneider dans L'importance à aimer de Zulawski, en beaucoup moins joli le plus souvent. Mais cette fois, ce n'est pas contre l'injustice de notre hérédité physique que je gueule, ni même contre l'industrie cosmétique. Non, il y a une face cachée sous le maquillage. Il y a même une face cachée derrière le le visage le plus nu. Je veux parler de nos pensées incessantes, de ces inventaires pour mémoire, ou plutôt pour mémoriser un tas de choses qui incombent aux femmes. Il y a eu des livres, des articles, on appelle cela maintenant la charge mentale, le fait que c'est aux femmes de savoir ce qu'il faut faire dans un ménage, acheter, faire réparer, trier, laver, repasser, les fêtes d'anniversaire à retenir, tout et n'importe quoi de la vie, tandis que les messieurs n'ont qu'à se rappeler à propos de faces cachées s'ils se sont rasés ce matin. Et encore, souvent c'est une femme qui le leur dira au moment de l'embrasser sur les joues.
Mais bon. C'est ce que je dis à chaque fois à Jean-Bernard, puis à chaque fois qu'il arrive en studio.
Bon. Cet aspect-là étant à présent connu et reconnu, j'aimerais aller beaucoup plus loin dans le détail de ces inventoriages automatiques et inarrêtables. Sinon, personne ne vous le dira. Aucune conjointe, aucune copine, aucune cousine, et surtout pas votre maman. Moi, je n'aurai plus de secret, tant pis, je ne suis plus à ça de près. Ainsi donc, pour revenir au premier exemple, vous devriez vous rappeler en allant au cinéma et avant de vous laisser vous émouvoir et de vous faire pleurer de rire, quel mascara vous aviez utilisé. Un million de cils qui vous les rendent touffus, mais vos larmes n'en seront que plus amères et plus noires. Ou alors l'ultra allongeant qui est ouf, waterproof. Sinon, gare aux lumières qui s'allument après le générique de fin. On ne peut penser à tout et il le faut cependant. Paraît-il qu'il y a des femmes, mes sœurs, mes consœurs, qui continuent d'égrener leur liste de courses et d'ingrédients de cuisine pour le repas du lendemain, même pendant que s'exécute l'acte d'amour, les yeux au plafond. Vous, messieurs, il faut qu'on vous dise de changer de chemise, de chaussettes, de ne pas mettre le même pull tous les jours de la semaine. Mais nous autres, du sexe dit deuxième, voire, mais c'est un éhonté mensonge du sexe faible, nous devons nous rappeler avec précision, en allant à un rendez-vous, ce que nous avions mis comme vêtement la dernière fois que nous avions rencontré la même personne. Car ça ne se fait pas de remettre les mêmes chiffons, c'est impossible. On en perdrait la face, y compris la face cachée. Or, aucune garde-robe n'est extensible à l'infini, ni aucune mémoire, sans parler des rencontres inopinées, les pires. Et plus vous vous habillez original, et plus c'est pire, car sûrement votre interlocuteur, et surtout l'interlocutrice, n'ont pas oublié votre robe à large rayures rouge et vert. Et à ce moment-là, je sais que la dernière fois que j'ai vu Françoise Cossard, je portais les mêmes choses qu'aujourd'hui à fleurs. N'oubliez pas votre seule défense. Prenez l'exemple sur Ruth Krief, par exemple, qui se monte tous les jours dans la lucarne avec la même chaîne autour du cou. Et ayez le réflexe pour dire « Mais c'est mon bijou fétiche, je ne saurais m'en séparer. » Sinon, calculez, notez, votre matière grise est remplie d'événements à anticiper, fêtes à l'école, réservations, abonnements, repas de famille avec votre belle-mère. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je lui avais cuisiné la dernière fois et quelle robe j'avais mise? Ainsi, calculez de tête quand de votre tête, parlons-en, les racines de vos cheveux vont sortir au grand jour et devenir apparentes, ce dont en même temps vous vous réjouissez, car vous engloutissez une fortune dans des produits miracles qui les font pousser plus vite. Et donc, quand faire cette teinture? Et avez-vous pensé à avoir une boîte en réserve? Ah, toutes ces tâches qui font que toute femme est multitâche. Et que, dans ces cas-là, leur conjoint ne peut même pas leur dire, comme pour la vaisselle ou le bricolage, « Laisse, je vais m'en occuper. » Je me demande si, dans l'évolution, quand la nature, ou pourquoi pas, quand Dieu créa la femme, nous étions ainsi fabriqués pour pouvoir avoir en tête une date, une préoccupation en particulier, celle de notre cycle. Et ça a aussi à voir avec la face cachée de la lune, n'est-ce pas? Retard ou pas de retard? Bébé ou pas de bébé? Après cette aptitude innée, ça entraîne tout le reste. Avouez, notre civilisation y a ajouté des tonnes. Ces pensées, l'obligation de penser à tout, finissent par peser et vont trop loin.
C'était bien de le dire, moi je trouve que... Non, qu'est-ce que vous pensez, Sophie?
Ça fait tellement chauffer le cerveau que j'ai le mascara qui coule tout seul.
Et les papous hommes autour de la table.
Bah, ils pensent à rien.
Moi, les vêtements, le maquillage, tout ça, pour moi, c'est du chinois.
On voit ça. Ouais.
Tout ce que je sais, c'est que mascara, ça me fait penser à mascarade.
Qui est un joli mot, mascarade.
Oui, ouais. C'est un très joli mot.
Ouais. Et Jacques Jouet?
Mais moi, je pensais à Lady Macbeth.
Oui.
Quand elle dit il reste encore une tâche.
Tous ces parfums d'Arabie. Oui.
Ah. Des débiles, je sais pas.
Non, mais il y a des gens qui pensent toujours à Lady Macbeth.
Oui, hein, c'est toujours ça.
C'est ce que j'ai dit. Avec la civilisation, ça va vraiment trop loin.
Dernière séquence de ce numéro de Papou du samedi soir, les journaux intimes. Être un autre et raconter son vendredi, un jour devenu particulier avec les RTT, et son samedi, tenir son journal, tout lui confier pendant 2 jours. Un plaisir qui n'est pas d'un autre âge, même si Internet a tout balayé. Il reste des gens qui prennent un stylo, un gros cahier, et y couchent leurs moments de crise pour mémoire. Les journaux intimes et croisés de Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy. Alors c'est à vous, Lucas.
Vendredi, 10h. Ce que je vis, à part Saint-Exupéry égaré dans le Sahara, personne ne l'a éprouvé. Je suis seul, sans personne avec qui parler véritablement. Je n'ai plus de réseau. Rien. Ah. Ni téléphone, ni internet, ni télé, ni tweet. Ça veut dire plus d'amis sur Facebook, le désert de l'amour. C'est pour ça que je suis obligé d'écrire à la main, avec un papier et un stylo. Cela ne m'est pas arrivé depuis 2008 d'écrire.
Vous savez encore ?
Difficilement. Plus de réseau depuis 7h ce matin, aujourd'hui vendredi, où j'ai posé mon RTT. Ce matin où j'ai donné rendez-vous à la nouvelle stagiaire du service com, Teresa Mebi, une anglaise intéressante. J'ai 2 places pour l'inauguration de l'expo Egon Schiele, érotisme et spiritualité à la fondation Bouygues Télécom. Teresa attend mon texto pour savoir où on se retrouve. Sans réseau, pas de call, pas de mail, pas de SMS, pas d'Instagram, pas de WhatsApp. WhatsAppen, rien, j'attends. Et si rien ne se passe, Teresa va m'infliger un vilain petit Brexit personnel.
Jean-Bernard Pouy, à vous.
Vendredi, 10h. Pour moi, un des pires jours de l'année. C'est pour ça que j'ai décidé de tenir mon journal. C'est le jour où l'on prépare le départ du lendemain, après 2 mois de quiétude insouciante dans la vieille maison de Centre-Bretagne. Il pleut, c'est normal, mais aujourd'hui c'est sinistre. On ne devait partir que dans 1 semaine, tranquillement, un jour vide. Mais la furia parisienne me réclame demain, un jour de grand départ, avec les trains bondés, des montagnes d'énormes valises à roulettes, les enfants en colère, les parents déprimés. On a changé les billets et on a eu de la chance. 2 places, mais dans le pire des trains, celui qui arrive en fin d'après-midi, le train que les parents pourvus de nombreux enfants prennent obligatoirement. Ça craint, comme disent les jeunes, mais bon, sic transit, comme disent les gastro-entérologues.
Et on retrouve Lucas. Qui n'a toujours pas de réseau.
Vendredi midi. Ce que je vis, seul Drogo dans le désert des Tartares l'a éprouvé. Toujours pas de réseau. Teresa m'attend, elle est déçue. Moi j'attends le réseau, je suis désespéré. Je n'ose pas sortir car elle pourrait sonner, elle a mon adresse. Tout à l'heure j'ai fait une tentative satellitaire. Je suis monté sur le toit de l'immeuble en me cramponnant à l'échelle, mon téléphone portable brandi en direction de la tour Eiffel en espérant que ça passe. Mais ce n'est pas passé. Il y avait des mouettes. Oui, des mouettes, pas des pigeons. C'est le changement climatique, avec des bébés mouettes. Une escadrille de Jonathan Livingston, le goéland, m'a attaqué façon les oiseaux d'Hitchcock. Bilan, 2 doigts sectionnés. Je suis redescendu, j'ai fermé tous les volets. Je suis seul dans le noir, sans réseau, j'ai peur. Et pendant ce temps-là, l'expo Egon Schiele a commencé.
Remarquez, quand vous aurez retrouvé vos 2 doigts sectionnés, vous pourrez
pianoter
à nouveau.
J'espère.
Dans 2-3 jours. Jean-Bernard Pouy dans le train.
Non, pas encore.
Pas encore.
11h30, le grand nettoyage a commencé. En juin, on met 1 semaine, à peu près, à ouvrir la maison, l'aérer, la chauffer et la rendre habitable. Maintenant, on a à peine 1 jour et demi pour la fermer. L'enfer. La protéger des souris, des chauves-souris, des araignées, des limaces, des mites. Les cambrioleurs, ça, on s'en moque. Semel Inanol Ket Insanire. Une fois par an, il est permis d'agir follement. Il pleut toujours. Pour la lessive, ça va être du sport. Le linge ne va pas sécher avant demain. Et c'est toujours l'instant au dernier moment, ou presque, où il y a un robinet d'eau qui pète. Une heure à réparer, le temps de remettre la main sur les joints. Et puis c'est aussi toujours à ce moment-là que des amis de passage, justement, passent. On resterait bien à manger, mais ne faites rien de spécial, ils disent toujours.
C'est Lucas Fournier, non? Il vous avait dit, je passerai en Bretagne te faire coucou. Et...
je ne dirai pas qui.
Lucas Fournier, alors...
Vendredi, 15h. Ce que je vis, seul Stevie Wonder a pu l'éprouver. Dans le noir, à cause des mouettes, sans téléphone, sans télé, sans l'heure. Oui, plus d'écran, plus de montre.
Vous n'avez pas un bon vieux réveil?
Non, non. C'est non. Sur ma télévision. Ah. Ou sur mon portable. Ah. J'ai pas de réseau. Alors j'ai tenté une sortie dans l'escalier. Pour la première fois, j'ai regretté d'avoir, depuis 5 ans, boycotté la fête des voisins. Accueil glacial à tous les étages, ou pas d'accueil. Un vendredi après-midi, ils sont tous dehors en happy hours. Et moi, inside, in gloomy hours. La femme de ménage du cabinet d'experts comptables du premier m'a dit « Ils sont partis, on n'a pas de réseau. » Teresa est très compromise, et Gunshill aussi. Et dire que c'était un type dans mon genre, qui n'en faisait jamais des compromis.
Pas de chance. La Bretagne profonde avec Jean-Bernard Pouy.
Vendredi 15h. D'abord, le check-up. Comme dans les films, juste avant l'attaque, quand John Wayne dit à Robert Mitchum « Vérifions nos montres ». Récapituler. A-t-on bien les billets, les clés de l'appartement, les tickets de métro pour éviter la queue à Montparnasse, les papiers d'identité, les chargeurs de téléphone? Bon. Et ensuite, seulement là, décider de ce qu'on ramène qui n'était pas prévu. L'horreur. Alors qu'on a décidé depuis longtemps de voyager léger, un simple sac à dos, voilà que s'étale à côté de ce dernier 4 pots de confiture, 2 énormes bouquets d'hortensia, 5 paquets de crêpes des sœurs Maé, les meilleurs du monde, hein, qu'on ne trouve pas à Paris, bien sûr, et le banjo de la fifi qu'elle n'a pas pu emmener tant elle était chargée quand elle est partie. Bref, de quoi remplir un immense sac plastique, gros comme 3 sacs à dos. Ad impossibilia nemo teletur, à l'impossible nul n'est tenu.
On sent que vous allez abandonner des choses. Et on retrouve...
Mais j'ai pas abandonné le latin. J'essaie de le remettre toujours un peu.
Ça, c'est bien. Pour l'ensemble, Lucas Fournier, il remonte l'escalier pour rentrer chez lui.
Oui, c'est vendredi soir, 9h. Oui. Ce que je vis, seul le perdreau rouge d'Alphonse Daudet, le jour de l'ouverture de la chasse, a pu l'éprouver. Je pense à Teresa, seule, lâchée dans la grande ville étrangère où rôdent les prédateurs. Elle m'aura attendu toute la journée, une journée bien particulière, et Terescola n'est pas loin. Puis le soir, affamée, triste de mon silence digital... Nos tweets today, nos textos, nos short messages, le silence des signaux amoureux, elle sera sortie. Un type l'aura abordée, il a compris sa fragilité. Au physique, Teresa est plus Botero que Schiele, mais c'est dedans qu'on bovarise, qu'on princesse de Clèves. Bref, il l'invite, un café, un film sentimental genre « Nous nous sommes tant aimés », je sens le procédé ignoble, et Teresa qui m'oublie. Tout ça à cause de Steve Jobs et Bill Gates qui ont inventé le téléphone à réseau.
Ah, c'est pas possible ça. Mais vous n'avez pas l'idée de prendre votre voiture et de la retrouver?
Mais où? Je n'ai pas son adresse.
Un homme amoureux retrouve toujours la femme de sa vie.
Et le télégraphe, je n'ai pas pour les,
ah, ouais.
Les chiens non plus. Hein.
Paris est si petit pour un si grand amour.
Oui, oui, ça c'est les enfants du paradis, évidemment.
Il fallait le dire.
C'est les enfants du paradigme, plutôt, là.
Oui.
Vendredi, 20h.
La Bretagne.
Manger les restes, la pire des corvées, surtout dans une maison glaciale et privée de vie. Vider et nettoyer le frigo, car le lendemain, le départ est à l'heure où blanchit la campagne. Du coup, un gros sac de plus avec le beurre, on va pas laisser ça. Les fromages de chef de Prisiac, les meilleurs du monde, on va pas laisser ça. Le reste des nouilles et du sucre, on va pas laisser ça à cause des souris. C'est toujours à ce moment que quelqu'un décide de faire avec des restes des sandwichs pour le voyage. Ce qui donne en général des objets surréalistes, où la salade flétrie est farcie de foie de morue, et où le gruyère suant côtoie les tranches d'andouille. Allez, un sac de plus. Te charge pas, me dit ma compagne, nous achèterons de l'eau dans le train. Je ne dis rien, je me souviens du temps où les enfants, petits, voyageaient avec nous. Au moins, ça soulage. Plus de poussettes à plier en catastrophe. Vincit qui sait, Vincit, il est vainqueur, celui qui se domine.
c'est bien. Vous avez eu 2 mois pour réviser votre latin, c'est ça l'idée.
Surtout là-bas, il y a un dictionnaire avec des pages roses, donc ça sert. Ouais.
Alors, la vie, Lucas, sans Teresa.
Samedi 10h.
Oui.
Ce que je vis, seul Kafka a pu l'éprouver. Toujours pas de réseau. Je suis allé à la boutique de mon opérateur télécom. Le type, un Coréen du Nord, sûrement, vu son air de dissuasion massive, me dit de faire le 618 depuis mon mobile et que c'est gratuit. Mais je ne peux pas, je n'ai pas de réseau. Il a dit, alors faites une réclamation en ligne. Je lui ai dit, je n'ai pas de réseau. Il m'a dit, je peux vous proposer un nouveau smartphone. Alors j'ai pris mon téléphone inopérant et j'ai opéré. Je l'ai lancé à toute volée contre le mur des téléphones et j'ai crié à Kim Jong-un. Et voilà, prélude à l'après-midi d'un iPhone. Moi qui suis nul en bowling, j'ai réussi un strike. Et le type a crié façon Munch. Et justement dans la boutique, il y avait une affiche de la fondation Xavier Niel qui présente une expo Munch la semaine prochaine à l'espace Télécom et Réseau.
Ben vous allez pouvoir inviter Teresa.
C'est vrai.
Séance de rattrapage.
Jean-Bernard Pouy.
Samedi, 9h. Ça y est, nous sommes à la gare. Je me suis gouré d'heure et du coup, on en a une d'avance. Ça me laisse entouré de mes nombreux paquets, le temps d'écrire mon journal à la veille. Verba volante, scripta manante. Hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Je suis un peu rassuré, même si ce n'est qu'à moitié. Dans ma tête, je refais le film, les derniers rangements, bien faire attention de fermer l'eau, l'électricité et la bouteille de gaz, mettre les volets, faire un dernier tour de surveillance et le cœur serré dire au revoir à la vieille baraque. Et c'est le moment où le train pointe au bout du quai, son mufle profilé, que l'on se souvient tout à coup qu'on a oublié de sortir la poubelle. Qui, si on ne trouve pas une solution, va rester un an sous l'évier.
Et puis bonjour les souris, hein.
On n'ose pas imaginer ce que ça va donner. Avec les croûtes de fromage, l'huile de sardine et les 3 nectarines pourries, notre maison chérie va se transformer en bac à compost. Mais à part ça, tout va bien. 1 heure de tortillard, et puis 2 heures d'attente après, dans une petite gare riante, sous la pluie, avant de prendre le TGV. Tempus et Dax Rerum. Le temps détruit toutes choses.
C'est bien vrai. Alors, Lucas.
Samedi 12h.
Oui.
Ce que je vis, seul l'étranger de Camus a pu l'éprouver. Je suis au poste de police de la rue Jean-Marc Ayrault.
Non.
Le policier m'a tendu une déposition assignée où il est question d'altercation et de dégradation volontaire de matériel avec des articles du code pénal. Je lui dis que Flaubert lui-même a rédigé dans sa jeunesse certains articles du code. Je me souviens aussi qu'Egon Schiele avait été condamné à 21 jours de cachot. J'ai demandé, comme dans les films, à donner un coup de fil à mon avocat. Le flic m'a dit « La dernière fois qu'on a vu un avocat, ici, c'était mardi à la cantine avec les hors-d'œuvre. » Et ça l'a fait rire.
Ah, il est drôle.
Et la vodka après, et l'avocat à la fin du repas.
Après, on a parlé peinture. Lui-même, avec un copain russe, un nommé Kandinsky, fait des extras le dimanche. Il est prêt à venir repeindre ma salle de bain. Ce qui est dingue, c'est que le flic s'appelle Klimt. Il m'a laissé partir vu qu'au commissariat non plus, il n'avait pas de réseau.
Et vous êtes dans quel arrondissement, vous ?
En plein centre de Paris.
Jean-Bernard Pouy, le train.
Alors, samedi, mais c'est plus le matin, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est 14h. Ouais. Dans le train, qui avait déjà 40 minutes de retard, un monde fou et des valoches partout, même dans les travées, une drôle d'ambiance, comme des trains partant pour le front. Nos 2 places, ça commençait bien, dans le sens contraire de la marche. Impossible de lire, sinon je vomis au bout d'une heure. Avec nous, une très vieille dame qui ne pouvait pas monter sa valise dans le porte-bagages. Chevaleresque, citoyen, je me suis immédiatement proposé pour la lui monter. Je ne sais pas ce que faisait cette petite vieille, mais je suppose qu'elle était représentante en enclume. Je pense que je me suis démis l'épaule. Mais si j'avais lâché la valise, je la prenais sur le pied, je me le cassais direct. Le pire n'était pas là. Dans le carré, juste à côté, un couple épuisé et 3 mômes en bas âge qui hurlaient déjà avant même que l'on prenne place. Hannibal ad portas. Hannibal est à nos portes. J'ai tenté de penser à mon lit, à ce lit lointain sur lequel j'allais, dans quelques heures, m'allonger en soupirant d'aise.
C'est doux de rêver, hein ?
Oui, mais ça suffit pas, généralement.
Et on retrouve Lucas Fournier, toujours au commissariat.
Non, c'est fini, on m'a relâché.
Ah, bon.
Samedi 15h. Ce que je vis, Jean Genet a pu l'éprouver. Je suis rentré à la maison, il y avait une lettre du facteur sous la porte. Cher Lucas, comme dit Mark Zuckerberg, le réseau du plus fort est toujours le meilleur. Pour vous remercier de votre fidélité de 15 ans à notre réseau, notre opérateur a le plaisir de vous offrir pour 6 mois, sans engagement, la nouvelle Free R&B B-Box avec un accès direct au cloud. Vous voyez les nuages, les merveilleux nuages. Et pile à ce moment, le réseau est revenu. Avec un message de Teresa qui me proposait d'aller à la Fondation Orange pour aller voir l'expo Fragonard, c'est Bonnard, ou l'inverse. Et un autre de Klimt et Kandinsky pour aller au vernissage de l'expo Des garçons et des hommes, de Léonard de Vinci à David Hockney, à l'espace SFR. Ma vie est cornélienne.
Jean-Bernard Puy, samedi.
Oui, on m'approche de chez moi, mais c'est pas encore ça. Samedi 16h, le temps passe lentement. On a fait à peu près la moitié du parcours. Nous venons de quitter Rennes. Tout va bien. Je suis prêt à assassiner au moins deux des trois gosses d'à côté, des hitléro-sumériens de première grandeur, ou bien les parents. Je ne sais pas encore. Mais bon, je ne m'ennuie pas. Non, je boue. Et c'est à peu près au même moment que le train s'est arrêté en pleine campagne. Ce qui n'était, bien sûr, pas prévu. Dans le silence hébété de la voiture 17, les cris démentiels des enfants éclatèrent encore plus fort. Un quart d'heure après, nous avons appris qu'on avait percuté un obstacle inconnu qui traversait la voie. On nous tiendrait au courant. Effectivement, la même voix suave et éplorée nous a pris, une demi-heure après, que nous avions percuté un sanglier. Pauvre bête.
Oui.
Les enfants ont crié encore plus fort. On nous annonçait également la crise nerveuse du conducteur et la probabilité de 2 ou 3 heures de retard.
Ah ouais. Mais vous qui adorez le train, ça ne vous empêche pas de continuer.
Enfin, y a comme des limites. Allez, à Jacques Test, hein, et ça c'est inutile de le traduire.
Dernière note pour ce samedi, Lucas Fournier.
20h, samedi. Au fond, je suis un type genre Alain Juppé. Ah. Je crois à la mondialisation heureuse. Ah. Vous savez quoi? J'ai résolu mon débat intérieur entre Teresa Maybe or Maybe Not et Klimt même me suivent. Ils sont tous venus ce soir à la maison, Teresa, Klimt, Kandinsky. On a commandé des sushis et des pizzas et on va regarder le PSG de Neymar à la télé, tous ensemble. Neymar, le Piero della Francesca de Sao Paulo. Toute nationalité confondue, fiévreusement, convulsivement, absolument, dans un melting pot joyeux, une Europe recomposée, une ONU d'un monde meilleur. Ce qui est bizarre, c'est que les sushis ne sont toujours pas là. Pas de nouvelles des pizzas non plus. Et merde, il n'y a plus de réseau.
Oh non, pas encore. Pauvre Jean-Bernard. Puis comment ça se termine, ce voyage de retour?
Très, très bien.
Ah.
Samedi 21h, ça y est, les atroces enfants se sont endormis. Alors que le train arrivait gare Montparnasse, avec presque 4 heures de retard. Ça m'a donné le temps de tenir ce journal, bien sûr. Tous les passagers au bord du Burnout sont descendus, silencieux, silencieux, hébétés.
Vous parlez mieux latin. Hein.
Le Burnout, mais maintenant il faut dire Burnout, hein, parce que bon, comme ça on est pas envahis par les mots. Tous les passagers au bord du Burnout sont descendus, silencieux, hébétés, courbaturés, même plus en colère. Ils pensent tout simplement qu'ils sont maudits. Je suis maudit, moi aussi, car en arrivant chez moi, incapable de faire un mètre de plus, il y avait un mot manuscrit dans ma boîte à lettres, me prévenant que le fameux rendez-vous du lendemain, celui pour lequel je venais d'affronter ce voyage aux enfers, était annulé. Alors là, 3 solutions.
Oui.
Première, je le suicide. Deuxième, je repars en Bretagne. Troisième, la vengeance. Et une vengeance particulièrement disproportionné.
Si vous deviez poursuivre, Lucas, vous opteriez
la vengeance.
La vengeance. Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Chesan Taous. À podcaster sur franceculture.fr. Alors, 2 rendez-vous à vous signaler. Si vous avez réservé, vous venez vendredi prochain, le 13, pour les papous en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Et pour tout le monde, sans réservation, on se retrouve samedi prochain, 14 octobre à 20h sur les ondes, pour les papous font leur révolution russe.
Quoi, quoi?